Dieu rejette ceux qui rejettent Dieu. On va commencer par un passage de l'Ancien Testament qui va fournir le cadre pour notre texte aujourd'hui. On lit ensemble du chapitre 44 d'Ésaïe et on commence au verset 9. Ésaïe 44, 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bois vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes. Il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il adore, il invoque, il s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a formé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour ne comprennent point. Il ne rentre point en lui-même, et il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé la moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. » Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît cendre. Son cœur abusait l'égard. Et il ne sauvera point son âme. Et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main. Maintenant, au Romains chapitre 1. Commençons au verset 18. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages,
ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen. Le Seigneur ajoutera sa bénédiction à cette lecture de sa parole à cause de son nom.
L'apôtre Paul décrit ici le monde où il habitait. C'était un monde caractérisé par l'idolâtrie. Or, il y a un principe qu'il ne faut jamais oublier. C'est que l'idolâtrie produit toujours l'immoralité. L'idolâtrie produit l'immoralité et l'immoralité ne reste jamais immobile. L'immoralité va toujours en augmentant. Ça commence petit, mais ça croît sans cesse. Si, par exemple, un adolescent ouvre un petit peu la porte à la pornographie, ce que le monde appelle de nos jours la pornographie douce, il trouvera bien vite que ça ne va pas s'arrêter. Ça va de plus en plus loin jusqu'à ce que cette jeune personne soit tout à fait débauchée et insensible à l'immoralité dans laquelle elle est prise. Et tout cela était vrai dans la société contemporaine de Paul. Quand il a écrit ce passage, Paul ne faisait que décrire l'immoralité qui était très évidente dans la civilisation romaine où il vivait. Cette perversion est impiété, selon Paul au verset 18. L'impiété est le refus exprès de Dieu et de sa loi. Et l'impiété produit l'injustice et la méchanceté de toutes sortes. Les versets qui suivent ici dans le livre de Romains, chapitre 1, décrivent les profondeurs de la dépravation humaine. En lisant cette liste de péchés dans le premier chapitre de Romains, on peut bien se demander comment le monde est arrivé à un tel état. Eh bien, selon ce même passage, la réponse en est très claire. Dieu s'était révélé à toute l'humanité. Il s'était révélé dans la création. Pour l'homme qui voulait expliquer la création, rien ne faisait du sens hors de Dieu. À propos, c'est toujours vrai aujourd'hui que la création ne s'explique pas hors de Dieu. Mais les hommes, comme l'apôtre Paul dit ici, les hommes ont retenu la vérité captive dans leur injustice. L'homme a choisi sa propre religion et ses propres dieux, et c'est pour cela que La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Or, ce que nous lisons au verset 24 et suivant dans ce premier chapitre de Romains est une description de la colère de Dieu en action. L'état des choses dans le monde est d'abord le résultat du péché de l'homme et puis le résultat du jugement de Dieu pour ce péché. Notez bien que trois fois, dans les versets 24, 26 et 28, on lit « Dieu les a livrés ». Trois fois, « Dieu les a livrés ». L'idée ici est qu'il les a abandonnés à leur propre convoitise. Il a ôté les contraintes qu'il avait mises sur leur méchanceté autodestructive. Il les a livrés à l'esclavage de leur propre désir maladif.
Tout cela est très important pour nous autres de nos jours, parce que la situation que Paul décrit s'applique parfaitement au monde moderne. Et c'est pour ça que nous allons examiner ce passage. Je veux résumer ce passage en ces termes. Dieu rejette ceux qui rejettent Dieu, mais il les offre toujours l'espoir de l'Évangile. Dieu rejette ceux qui le rejettent lui, mais il les offre toujours l'espoir de l'Évangile. Et à propos de ce sujet, j'ai trois points simples à faire. Tout d'abord, le péché de ceux qui rejettent Dieu. Puis, on va regarder la peine imposée sur ceux qui rejettent Dieu. Et enfin, au verset 32, le penchant obstiné de ceux qui rejettent Dieu. Le voilà tout simplement. Le péché, la peine et le penchant. D'abord, quel est le péché de ceux qui rejettent Dieu? Notez le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu de la créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ils ont changé la vérité de Dieu. Voilà une proposition qui se voit trois fois dans le livre de Romains, ici au chapitre 1, le verset 25, puis au chapitre 3, le verset 7, et encore au chapitre 15, le verset 8. C'est la vérité que Dieu a révélée, la révélation de lui-même que Dieu a donnée aux hommes. Ça part de la vérité que Dieu a fait connaître aux hommes. Or, qu'est-ce que les hommes ont fait avec cette vérité de Dieu? Ils l'ont changée en mensonge. C'est-à-dire, plus précisément, ils ont échangé la vérité de Dieu pour le mensonge. En voilà la force. Ce n'est pas juste un mensonge quelconque, mais c'est plutôt le mensonge. Ils ont échangé le culte de Dieu pour l'idolâtrie. Les Écritures font cette distinction fondamentale entre le vrai Dieu vivant et les idoles fabriquées par les hommes. Dieu a créé les hommes. Les hommes ont créé des idoles et les idoles n'ont rien créé. Au verset 25, Paul souligne le contraste entre les idoles de l'homme et le Créateur, qui est béni éternellement. Il dit « Amen » en réfléchissant au fait que lui, il n'a pas cru le mensonge, mais il adore le Créateur. Il dit en effet « Grâce à Dieu, je connais le vrai et le vivant Dieu, et c'est lui que j'adore. Amen. » Mais le monde a fait justement le contraire. L'homme naturel a préféré croire le mensonge et échanger le culte de Dieu pour l'idolâtrie. Il avait la révélation de Dieu, mais il s'est tourné de la lumière de cette révélation aux ténèbres du mensonge, le mensonge de l'idolâtrie. De nos jours, on enseigne que toutes les religions sont bonnes. Elles sont toutes des variations sur le même thème, la même vérité. On dit que toutes les religions sont des aspects du culte de Dieu, quoi que soit son nom, soit Jéhovah, soit Allah, ou n'importe quoi.
On peut être bouddhiste ou musulmane, romaniste ou protestant ou n'importe quoi. Ça ne fait aucune différence. Mais tout cela est le mensonge. Il ne faut pas le croire. La Bible dit que c'est le mensonge. Et pas juste un mensonge, mais le mensonge. C'est le mensonge qui se trouve à la base de tout autre mensonge. C'est le mensonge qui est la source de la condition que Paul décrit ici. C'est pourquoi, dans le passage que nous avons lu d'Ésaïe 44 au verset 20, c'est pourquoi l'homme ne sauvera point son âme. Il est si aveuglé qu'après avoir fabriqué son idole, il ne dira point « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans la main ?» Ce mensonge n'est pas limité aux idoles en bois, mais il comprend tout ce que l'homme substitue pour la vérité révélée de Dieu. Tout ce qui est basé sur un refus de la révélation divine est le mensonge. Ce refus est malheureusement à la base de la plupart des philosophies modernes. C'est la base de la plupart des disciplines d'enseignement formelles dans le monde moderne. Dans nos écoles, on interdit l'examination d'un sujet d'un point de vue qui présuppose la vérité des Écritures. Croire aux Écritures détruira la crédibilité érudite. Mais laissez-moi vous dire, si vous ne croyez pas aux Écritures, vous perdrez beaucoup plus que votre crédibilité érudite. Vous perdrez votre âme en enfer pour toute l'éternité. Voilà notre condition dans ce monde moderne. L'arrogance de l'homme est montée si haut qu'il peut rejeter la révélation de Dieu tout en essayant de trouver la vérité par ses propres expériences. Notez ce que dit le verset 28. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ainsi, l'homme moderne rejette la vérité révélée de Dieu, soit la révélation naturelle, soit la révélation de la Bible. Notre Seigneur a bien dit en Jean 3, 19, « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ah, voilà la clé. « Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Voilà la raison pour laquelle les hommes ont rejeté la vérité de Dieu et qu'ils l'ont échangée pour le mensonge. Ils ont rejeté la connaissance de Dieu car ils ont préféré leur immoralité. La vérité de Dieu demande toujours la pureté. Dieu est saint. On ne peut pas communiquer avec Dieu sans se soumettre à ses demandes pour la sainteté. Et c'est exactement pour cela que l'homme naturel rejette la vérité de Dieu et préfère le mensonge. Il veut être libre des commandements de Dieu afin de poursuivre ses convoitises maladives. On veut être libre, sans limite, sans contrainte, sans la loi de Dieu. Mais écoutez, être libre de Dieu, c'est l'esclavage. L'homme qui vit séparé de Dieu est esclavage à ses propres péchés. C'est donc un désir très dangereux. Écoutez, surtout les jeunes qui se plaignent souvent des contraintes sur leur liberté. Si jamais Dieu vous donne le désir de votre cœur d'être libre des contraintes divines, vous êtes perdu, car cela veut dire que Dieu a fini avec vous. C'est une condition triste, où Dieu laisse les hommes rebelles dans leur péché. Voilà l'homme dans sa dépravation totale. C'est l'homme perdu. C'est l'état de l'homme qui commet le péché de rejeter Dieu. Passons maintenant à la peine que Dieu impose sur ceux qui le rejettent. Les versets 24, 26 et 28. Dieu les a livrés. D'abord au verset 24.
Dieu les a livrés à l'impureté. L'impureté, c'est-à-dire l'immoralité totale, est signe du jugement de Dieu. Quand l'impureté règne dans une nation, c'est l'évidence non seulement de la maladie de cette nation, mais surtout du jugement de Dieu. On ne peut pas regarder la vie en Amérique aujourd'hui sans regarder en face l'impureté partout. Si acceptée est l'impureté que l'on appelle prude, celui qui voudrait prendre fait et cause pour la pureté. On l'appelle faible, tandis qu'en réalité c'est un soldat vaillant qui lutte là où les vrais faibles se rendent. L'impureté, c'est l'évidence du jugement divin. Au verset 26, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. » La deuxième évidence d'une nation jugée par Dieu est l'immoralité insouciante parmi les femmes. C'est le jugement de Dieu quand les femmes sont aussi immorales que les pires hommes. Nous, on vit dans une société où les femmes sont souvent participantes volontaires dans les actes impurs. Ça, c'est l'évidence du jugement de Dieu sur notre nation. Ajoutez, selon le verset 27, l'homosexualité parmi les hommes. On enseigne de nos jours que l'homosexualité est normale, bonne, naturelle. Mais au contraire, c'est l'évidence du jugement de Dieu. Et au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Très populaire de nos jours est cette philosophie, cette forme de logique qui justifie l'immoralité et qui appelle le mal bon et le bon mal. Cette mentalité est l'évidence du jugement de Dieu. Il y avait toujours dans ce pays des homosexuels, mais il y avait aussi une base de moralité qui condamnait l'homosexualité. Cela n'est plus vrai. Ce qui règne aujourd'hui est une mentalité qui dit « ça, c'est peut-être votre vérité, mais ce n'est pas la mienne ». On insiste que son opinion est aussi bonne que la vôtre, et la totalité de la révélation divine est réduite à une opinion personnelle. Ça, c'est aussi une évidence du jugement de Dieu sur une nation. Dieu les a livrés. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Dieu les a livrés en enlevant ses contraintes. Oh, combien de fois Dieu retient-il les pécheurs des plus mauvais excès de leur propre convoitise et de leur propre folie. Mais quand il enlève ses contraintes, il les livre à ses excès. Puis, selon le verset 28, Dieu les a livrés en rejetant ceux qui l'ont rejeté. En plus, selon le verset 26, Dieu les a livrés en laissant s'exprimer les passions infâmes. Vous voyez donc que le péché est sa propre punition, du moins pour le moment. Et finalement, il les a livrés en permettant les conséquences de l'immoralité de se manifester dans le corps de ceux qui déshonorent leur propre corps, car nous lisons qu'ils reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Les maladies transmises sexuellement sont non seulement une loi de nature, mais aussi le jugement de Dieu. Ne vous trompez pas. Le sida est la maladie des homosexuels. Je sais bien que de nos jours, il n'est pas acceptable politiquement de dire que le sida est le jugement de Dieu sur le péché, mais que Dieu soit vrai et chaque homme menteur, ils reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Et bien entendu, ce jugement n'est pas limité à l'ici et maintenant. Romains, le chapitre 2 et le verset 5 prévoient le jour de la colère de Dieu. Ce jour-là est la force finale du jugement de Dieu sur le péché et la peine éternelle de Dieu sur ceux qui le rejettent. Finalement, considérons brièvement le penchant obstiné de ceux qui rejettent Dieu. On aurait pensé que le menace du jugement de Dieu ferait se repentir les hommes de leurs péchés. Mais au contraire, notez combien têtus sont ceux qui rejettent Dieu. Le verset 32 dit « Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Mes amis, faites attention de ne pas admirer les péchés de ce monde. Cela est très difficile dans une société où la télévision domine notre vie, mais il ne faut pas ajouter à votre propre culpabilité en se souillant dans les ordures des autres. Repentissez-vous plutôt et cherchez la miséricorde de Dieu en Christ. Je dis repentissez-vous et cherchez la miséricorde de Dieu parce que je pense que Paul dit tout ce qu'il dit ici pour cette seule raison. C'est pour appeler les âmes au repentir. Il est en train de déclarer l'espérance de l'Évangile. Quand on lit cette triple déclaration, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés, Dieu les a livrés, on a l'impression que cela est tout à fait final. Cela donne l'impression qu'il ne reste plus d'espoir. Mais cette conclusion est fausse. Car s'il n'y avait plus d'espoir, pourquoi Paul aurait-il voyagé partout dans le monde païen, proclamant l'Évangile à ces gens même qu'il est en train de décrire? Non, le message de Romains chapitre 1, son vrai message, est un appel aux hommes de venir à Christ. La force de ce message est ceci. Considérez votre condition. Considérez ce que votre péché a fait de votre vie. Puis acceptez le fait qu'il n'y a point d'espoir offert par l'idolâtrie. Et dans le chapitre 2, Paul va montrer qu'il n'y a pas d'espoir dans le judaïsme non plus. Il y a d'espoir dans aucune religion du monde. Le seul espoir pour l'homme se trouve dans l'Évangile de Jésus-Christ, l'offre de la justification par la grâce gratuite qui pardonne le péché et qui rend le pécheur justifié devant Dieu, accepté à cause de la justice imputée de Christ. Voilà le seul espoir de l'homme. Je dis à ceux d'entre vous qui m'écoutent et qui sont pris par les convoitises et par le péché, à ceux qui ont échangé le culte de Dieu et la parole de Dieu pour le mensonge et tout ce qui va avec, je vous dis que Dieu vous offre l'espoir, celui de l'Évangile. Il peut vous laver, vous sanctifiez et vous justifiez devant Dieu. Le pécheur souillé de toute l'immoralité de ce monde peut être aussi pur qu'un ange. Quelle est la meilleure nouvelle que je puisse annoncer à l'homosexuel? Je peux lui dire, mon ami, tu ne souffres pas d'une maladie, tu souffres du péché, et il existe une solution pour cela. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. Ainsi, je dis à tous ceux qui sont opprimés, à tout individu dévasté par le péché et qui entend ma voix, venez et bienvenue à Jésus. Et à ceux d'entre vous qui sont sauvés, au lieu de désespérer, nous qui connaissons la seule solution qui existe pour la condition de l'homme, nous devons entendre l'appel de proclamer l'Évangile aux perdus. Car la seule solution pour la condition humaine, c'est Christ. Amen.